Tirer la nuit sur les étoiles, c'est le nouvel album d'Étienne Daho.
Tirer la nuit sur les étoiles. La nuit nous appartient. Wow.
Bonjour Étienne Daho.
Bonjour.
Vous voilà en face d'un micro. C'était quand et comment votre première fois avec votre voix dans un micro? Vous vous souvenez?
Alors c'était dans un studio qui s'appelle le studio DB à Rennes, d'où je viens. Mmh. Et j'avais fait des maquettes avec le groupe Marquis de Sade. Et en fait, on a enregistré, j'avais 20 ans, je crois. Et donc j'ai chanté, mais je savais pas comment on faisait, donc j'ai chanté comme je parlais. Et voilà, c'est resté.
Et quand vous avez écouté ces enregistrements, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Oh, c'était magique déjà de s'écouter avec un casque, avec de la réverb et tout ça. Tout d'un coup, il y a une ampleur, enfin... C'était magique, j'étais très content, j'avais l'impression que je chantais très très bien.
Elle est très belle, votre voix. Moi je dis toujours à propos de votre voix qu'elle est enveloppante, qu'elle est comme une caresse. Comment est-ce que vous l'entendez, vous ?
Moi je peux pas dire la même chose, mais ce que je peux dire c'est que c'est une alliée, c'est une amie. Elle m'aide à dire ce que j'ai envie de dire en fait. Elle m'aide à dire précisément ce que j'ai à communiquer.
Il paraît que vous avez sans cesse de la musique en tête, des mélodies qui vous traversent.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je crois que, enfin, je le dis tout le temps, je radote, hein. Mais mon corps et ma tête sont faits pour faire ce métier, donc j'ai toujours de la musique en tête. Quand je m'arrête de parler, j'ai toujours une musique qui arrive, toujours. Et si je suis dans une conversation, si intense soit-elle, s'il y a un truc à la radio, même une merde, un truc qui ne m'intéresse pas du tout, ma tête s'en va, quoi. Mon corps est là, mais ma tête est partie depuis longtemps.
Si on s'arrête de parler 3 secondes, qu'est-ce qui va se passer?
Ça peut arriver, ouais. Ouais.
Est-ce que vous savez dire aujourd'hui pourquoi vous avez consacré une part si importante de votre vie à la musique? Vous avez dit il y a quelques minutes, je suis fait pour ça.
Parce que c'est ma vie, c'est une vocation. C'est pas un métier que j'ai choisi comme ça parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Enfin, j'ai la chance que j'ai pu continuer à le faire et que je continue à le faire aujourd'hui. Mais ça aurait pu, ces chansons n'auraient pu jamais rencontrer le public ou toucher les gens. Et...
Vous n'avez jamais regretté cette trajectoire?
Non, mais non, c'est un tel cadeau.
T'as jamais dit, je ferais bien autre chose, la vie est courte.
Non, j'ai toujours voulu faire de la musique, ça a toujours été très important pour moi, mais depuis tout petit. Hein. Après, je n'osais pas le dire quand j'étais ado, je n'osais pas le dire. Voilà.
Pourquoi?
Je sais pas, j'avais honte de dire que je voulais être musicien.
Ouais, vous avez été un adolescent très discret, paraît-il.
Jusqu'à une certaine heure, oui.
Mais pourquoi cette discrétion?
C'est le fond de ma nature, je suis comme ça. J'ai très anglo-saxon dans ma manière de me comporter.
Ouais, l'envie d'être un homme invisible, donc, un jeune homme invisible.
À l'époque, oui, ouais, j'étais pas très sûr de moi, mais comme beaucoup de jeunes gens. J'avais pas ce que je pouvais projeter sur les autres. J'avais la sensation que c'était forcément que négatif, bien entendu. Ouais. Alors qu'en fait, avec le temps et après, les gens vous parlent de la personne que vous étiez et c'est pas du tout la personne que vous pensiez être. Enfin, en tout cas, ce que vous projetiez n'était pas du tout ça.
Ce que vous n'avez pas dit pendant longtemps non plus, c'est que vous étiez né en Algérie, que vous aviez démarré votre vie là.
Oui.
Pourquoi?
Parce que quand je suis arrivé en France à l'âge de 7-8 ans, j'ai trouvé très compliqué d'être étranger. Même si j'étais français de nationalité, le fait d'avoir vécu pendant 8 ans ailleurs, en n'ayant aucun code qu'avaient les gamins de mon école, qui était une école hyper straight de curés, vraiment j'étais perdu. Et les quelques informations qu'ils avaient, à savoir que j'étais pas avec mes parents, que mes parents étaient pas ensemble, que je venais d'ailleurs et tout ça, faisaient de moi une bête curieuse. Et que j'avais envie de me fondre, comme tous les enfants, j'avais envie de me fondre dans la masse, quoi. J'avais pas du tout envie qu'on me regarde. Et donc voilà, ça a duré longtemps. J'avais l'impression que si j'avais à dire des choses de cette période, c'était des choses un peu tristes, en fait. Et j'avais envie d'être une nouvelle personne, en fait. J'avais pas du tout envie de ça. Donc au début, j'avais pas le téléphone. Et quand j'ai commencé à chanter, j'avais été signé par une boîte qui s'appelle Virgin. Et donc, comme ils n'arrivaient pas à me joindre, la fille à la promo a écrit une espèce de bio comme quoi j'étais prof d'anglais et que j'étais né à Rennes. Elle m'avait enlevé 2 ans d'ailleurs, parce que ça c'était pas mal.
Mais d'ailleurs, quand cette conversation a démarré, vous avez dit « je viens de Rennes ».
Oui,
il y a quelques minutes.
Oui, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être là-bas. En fait, j'ai passé beaucoup plus de temps à Rennes qu'en Algérie, en fait. J'ai vécu des choses qui ont été des choses très fondatrices à tout niveau. Niveau personnel, niveau musical, puisque j'ai commencé au transmusical. Donc ça a été une ville, ça l'est toujours, une ville très importante.
Votre vie a démarré en Algérie, vous avez fui la guerre, enfant. Éviter les balles, c'était comme un jeu, apparemment.
Bah oui, parce que quand on est enfant, voilà.
Mais ça doit laisser des traces quand même, ça.
On s'habitue à tout, bien sûr. Ça rend plus fort.
Vous pensez que ça rend plus fort?
Ah oui.
Plus fort, pourquoi?
Parce que ça muscle. J'étais beaucoup plus fort que les petits gamins de mon école ou que les ados de mon lycée parce que j'avais vécu des choses qui m'ont contraint à affronter des choses beaucoup plus difficiles.
Ça vous a permis de vous constituer une peau dure?
Exactement, ouais.
Une armure?
Vrai. Et c'était un plus, hein, parce que ça m'a permis d'être costaud, vraiment. C'est pas un métier très simple, hein, parce que c'est un métier merveilleux, mais en même temps... Quand on est débutant et qu'on a l'air très gentil, mignon comme ça, les gens pensent qu'ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent.
Manipulation?
Trop, trop, ouais, mais j'ai toujours très bien résisté.
Grâce à ce que vous avez vécu, entre autres, pendant votre enfance.
Je pense que ça en fait partie, mais pas que ça. Je veux dire, on est la somme de plein de choses. Donc,
évidemment.
C'en est une partie, mais il n'y a pas que ça.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais retourné sur les traces de votre enfance?
Parce que j'en ai pas besoin. C'est pas quelque chose qui me manque. C'est quelque chose qui est en moi.
Que vous avez emporté avec vous.
Oui, j'ai gardé ce qui est le meilleur de ça. Peut-être que le cerveau, en général, de tout le monde, fait un tri. Et le mien a fait ce tri. Donc je garde des moments merveilleux, ensoleillés, avec une famille aimante, beaucoup de musique, la plage, la liberté...
Et pas les balles.
La scolarité en diagonale, assez peu en fait. Ouais.
La guerre est aujourd'hui présente depuis 15 mois déjà sur le continent européen. Ça vous inspire cette chose?
Bon, on est en train de plomber tout le monde là, non?
Mais non. Ça s'appelle Le Chant des Idoles. Vous y dites, l'histoire est amnésique. C'est votre sentiment, Itendo?
Oui, la preuve.
Ça bégaye?
Oui,
ça
toujours.
Se répète.
Hélas, c'est très déprimant de se dire que, voilà, que l'histoire est amnésique et que ça ne sert pas de leçon.
Vous avez été touché en particulier par les Ukrainiens qui ont fui, qui ont quitté leur pays pour aller poursuivre leur vie.
Bien sûr, c'est ce que dit cette chanson. Hein. Les idoles sont bien sûr les dictateurs.
Poutine en particulier.
Pour ne citer que lui.
Vous vous considérez comme un réfugié, vous?
Non.
Non. Vous qui avez quitté l'Algérie?
Non.
Un étranger, vous disiez tout à l'heure.
Oui, mais ça m'a donné la sensation d'être partout chez moi. Donc c'est un plus.
Vous disiez dans les Inrock récemment, le monde est de plus en plus cloisonné, labellisé, excluant. Quels sont les indices qui vous amènent à dire ça, Étienne Daou?
Ce ne sont pas des indices, ce sont des constatations.
Vous voyez ça où?
Je vois ça partout. J'ai la sensation, enfin peut-être que c'est mon...
C'est votre sentiment que j'interroge.
Que c'est mon monde à moi, peut-être que... Parce qu'on parle toujours de soi, de sa propre expérience, hein, donc je ne sais pas, peut-être que je suis à côté. Enfin, en ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, dans mon environnement et mon entourage, quand j'étais jeune homme, et jusqu'à dans les années 90, je n'ai pas la sensation, je n'ai pas le souvenir que la religion, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, le niveau social comptaient pour les gens. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout le monde était ensemble. Il y avait une espèce de fusion global de plein de gens, y compris avec l'âge. Et je trouve que de plus en plus, les gens se referment sur ce qu'ils sont, alors par religion, par sexualité, par idée politique. Et en fait, c'est complètement absurde. On vit avec les autres et c'est des autres et de la différence qu'on apprend des choses. C'est ça qui fait des forces, qui fait des mouvements, qui fait des mouvements culturels aussi.
Mmh. On a oublié ce qui nous rassemble.
Parce qu'il y a des mélanges, par exemple, je ne sais pas, j'ai la sensation, et pas que la sensation, que l'art contemporain, la musique, le cinéma, la photo, enfin, j'avais des gens autour de moi, et j'ai toujours autour de moi, des gens de disciplines extrêmement différentes. Mmh. Et que cette chose-là, sur des générations, enfin, probablement que ça existe, et peut-être ça existe ici, mais j'ai l'impression que tout est très cloisonné. Dans la musique, par exemple, les gens du rap ne parlent pas du tout aux gens qui font de la pop. Enfin, les gens ne se connaissent pas. Enfin, par exemple, hein, je dis ça. Enfin,
c'est on insiste trop sur les différences aujourd'hui.
Mais j'ai l'impression que la peur conduit à un ratatinement sur soi-même, un repli sur soi, et sur le fait de ne voir avec soi, de s'entourer que de gens qui vous ressemblent. Voilà.
Mais c'est tout l'inverse de votre démarche, parce que vous, dans vos chansons, depuis des années, vous ne cessez que de nous emmener vers l'ouverture, vers l'ouvert.
Je crois que c'est le fond de ma nature. J'ai été élevé comme ça. Voilà.
Et c'est un beau partage.
Je ne sais pas si c'est un beau partage, mais je trouve que c'est ce qui m'apprend le plus. Je n'ai pas du tout... j'ai moins à apprendre de quelqu'un qui pense exactement comme moi que de quelqu'un qui va justement discuter avec moi, qui va me donner des arguments, qui va peut-être changer mon point de vue.
Est-ce que l'époque, vous la trouvez toujours pudibonde, Étienne Daho ?
Bien sûr, elle l'est.
Un exemple récent ?
Je sais pas, on ne peut rien faire ou rien dire sans se faire taper dessus. Vous dites que vous aimez le bleu, vous avez 50% des gens qui vont dire « Mais ce connard aime le bleu, qu'est-ce qui se passe ?»
Ah bon, c'est votre couleur préférée, Étienne Daho ?
C'est un exemple.
Hein. Vous avez compris.
Les gens ne tolèrent pas qu'on pense pas comme eux. Et ça, c'est complètement absurde. Je crois que c'est la peur et la surpopulation qui conduisent à des replis comme ça, à la peur de l'autre, à la peur de l'altérité.
Parce qu'on est plus nombreux sur Terre ?
Oui, parce qu'en fait, on est sans arrêt...
On étouffe ?
Oui, on étouffe dans son espace. On est sans arrêt agressé dans son intimité, dans son espace. Ça rend nerveux dans les grandes villes.
Dans cette émission, les invités choisissent un son qui les définit. Je me suis permis de choisir pour vous.
Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus du froid. L'homme qui marche devant moi. Est-ce moi ?
Le son que j'ai choisi, c'est une chanson, c'est un extrait de L'homme qui marche sur l'album Les chansons de l'innocence retrouvée. Il paraît que c'est la chanson qui vous définit le mieux, Étienne Daho.
C'est celle dont je suis le plus fier, en tout cas. Parce que se définir par une seule chanson, c'est trop restrictif. Mais c'est vrai que je me retrouve dans cette chanson pour plein de raisons. Je ne l'expliquerai pas parce qu'il ne faut pas expliquer les chansons. Parce que chacun se fait son film, surtout avec une chanson comme ça qui peut paraître un petit peu cryptique.
Elle l'est.
C'est vrai ? Elle l'est pour vous ?
Bah quand même, oui. On peut émettre pas mal d'hypothèses.
Oui, c'est vrai.
Sur le texte.
C'est vrai.
Et vous le savez, non ?
C'est-à-dire qu'en fait, quand on écrit une chanson soi-même, on sait tellement de quoi on parle que c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse être mystérieuse.
Chacune de vos chansons a un destinataire précis ?
Ou des.
Ouais. Mais il y a toujours l'une ou l'autre personne. Sans ça, vous n'écrivez pas ?
J'ai besoin d'avoir des muses. Et... chaque album, c'est un résumé, en fait, vraiment, à chaque fois, de ce qu'on a traversé dans les années qui précèdent un enregistrement et une écriture. J'ai pas suffisamment d'imagination.
Quel est le rôle que joue l'intuition dans vos choix artistiques, mais aussi dans votre vie, Étienne Daho ?
Essentiel. C'est la seule intelligence pour moi.
Elle vous
c'est la seule chose en quoi je fais confiance absolue. C'est mon intuition. Et toujours, hein, c'est mon or, en fait.
Or, qui vous a toujours permis de vivre le meilleur ? Ou qui vous a amené parfois dans de mauvaises directions ?
L'intuition peut vous amener parfois dans des mauvaises directions, parce que le danger, c'est toujours très excitant, et que les conséquences du danger font écrire.
Donc vous êtes toujours gagnant !
C'est affreusement cynique.
Vivre le danger pour avoir des idées.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Enfin, je pense que
chercher le danger parfois.
Je crois que tous les artistes ont envie de sortir de leur zone de confort pour écrire, surtout quand on peut-être pas au début, parce qu'on met 20 ans à faire son premier album, mais comme on met 6 mois à faire le second,
L'amour s'infiltre, bien sûr, aussi tout au long de votre nouvel album.
Où sont tous nos « je t'aime » ? Où sont-ils les serments ? Le vent me les ramène en rafale et souvent. Je pense à nos poèmes, je pense à notre banc, au chant de cyclamène qui tremble dans le vent. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
Nous écoutions quelques mesures de romans inachevés, de l'aveuglante et envoûtante chanson qu'est le phare. Est-ce que vous avez besoin de vivre des histoires d'amour pour écrire des chansons d'amour, Étienne Daho ?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui.
Donc vous êtes très, très amoureux en ce moment.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais.
Allez, poursuivez ma phrase. Tomber amoureux, c'est ?
Tomber amoureux, c'est être emporté par quelqu'un. Par son mystère, par sa voix, par ce qu'on imagine que la personne est.
Et on essaye...
De percer ce mystère.
De percer le mystère avec les chansons aussi. Le mystère de l'amour.
Quel vaste sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir une bonne réponse. Si je l'ai, je vous jure, je vous rappelle.
Un début de réponse.
Je ne sais pas, non.
Qu'est-ce ça s'éclaircit peut, pas avec le
peut,
temps.
Qu'est-ce qu'on peut percer ? C'est très difficile, il n'y a rien de plus mystérieux que l'autre. Il n'y a rien de plus mystérieux que la rencontre avec l'autre. Quel est l'écho que l'autre fait en soi ? Et pourquoi tout d'un coup on s'attache à quelqu'un plutôt qu'à une autre personne ? C'est très très mystérieux. Il y a bien sûr des réponses. Il n'y a pas que des choses chimiques. Parce que c'est vrai que j'ai vu plein d'études là-dessus, que l'amour ne serait que des réactions chimiques, de sa propre chimie à la chimie de la personne qui est en face.
Dans un premier temps, en tout cas.
Mais je ne sais pas. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Mais c'est affreux.
Mais donc, écrire des chansons d'amour, ça ne permet pas, ou ça n'aide pas à tirer des leçons ?
Non, parce que chaque histoire est différente. Donc, à chaque fois, ça recommence. On fait les mêmes conneries.
Ah oui ?
À peu près, oui.
On n'apprend pas en amour ?
On croit apprendre, je pense. On croit apprendre. On recherche toujours la même chose, il me semble.
Vous savez ce que vous recherchez, vous ?
Oui, c'est une drogue. J'essaie d'être high.
Drogue dure ?
Ça peut en être une, ouais. C'est la meilleure.
Roman inachevé, ça signifie que les grandes histoires d'amour n'ont jamais de point final, Étienne Daho ?
Celle-là en particulier. Ça reste une question ouverte.
Ouais. Cette c'est personne mieux. A écouté la chanson ?
Oui.
Vous avez eu un retour ?
Oui, pas plus tard qu'hier.
Ah oui ? Soulagement ?
C'est toujours un moment compliqué. C'est difficile. Parce qu'en fait, écrire une chanson, c'est une manière d'idéaliser tout et de rendre une histoire unique et éternelle. Donc c'est toujours très particulier. Enfin, il m'est arrivé qu'on écrive des chansons sur moi. C'est toujours... C'est très flatteur et puis à la fois c'est très bizarre d'avoir son intimité exposée comme ça.
Et c'est figé dans le temps.
C'est figé dans le temps, c'est éternel. C'est ça qui est merveilleux en même temps. Parce qu'il y a des chansons que je chante, il y a des visages
qui réapparaissent.
Qui sont évoqués, ouais, bien sûr, toujours. Ouais, c'est beau.
Ouais.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence.
Vous continuez à penser qu'il n'est pas de hasard ?
Oui, je crois. Je crois que le hasard n'existe pas vraiment. Je crois qu'il y a des choses tout à fait inconscientes qui vous conduisent dans certaines situations, à faire certaines rencontres, à prendre certaines décisions. Ouais.
Merci en tout cas d'avoir accepté... ce rendez-vous avec nous.
Avec plaisir.
Tirer la nuit sur les étoiles, qu'est-ce qui l'ouvre les cœurs, votre 13e album ? Ça. Étienne Daho, est-ce que ceci, ça ne serait pas un son qui vous procure des frissons ?
C'est à l'amour auquel je pense.
Je me suis planté ?
Non, mais c'est la première voix amie, en fait. Quand j'ai entendu cette voix, cette chanson, cette mélancolie, ça... Ça m'a touché, j'étais un petit garçon, hein, j'avais Elle est, je sais pas, 5 ans, 6 ans.
C'est Françoise
Armé. Mais j'ai su que c'était une voix amie. Et effectivement, c'est une voix qui m'a accompagné en tant qu'artiste longtemps.
Ouais.
Et en tant qu'ami après, dans la vie.
Comment avez-vous su identifier à 6-7 ans que c'était une voix amie et qu'en plus, après, vous alliez devenir ami avec elle?
Je ne sais pas.
Intuition?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est très difficile d'analyser les choses qui vous plaisent comme ça tout de suite. On écoute un disque et voilà, quand j'ai écouté le premier album du Velvet Underground, bah voilà, c'était, je suis devenu une autre personne. Il y a des œuvres qui transforment votre vie. Ou alors, je crois toujours que les chanteurs ou les artistes sont des voix pour les autres. Et je pense que c'était une voix pour moi. Elle était une voix pour moi.
Et avant de se quitter, nos choix culturels pour ce week-end, Pascal Clark d'abord, que nous proposez-vous?
Alors, c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais comme vous le savez, les livres, heureusement, ne sont pas périssables. Sambre, signé Alice Géraud. La Sambre, c'est une petite région industrielle et même industrieuse du nord de la France. Elle n'est pas bien grande. Et c'est sur ce petit territoire qu'ont été commis, sur plus d'une dizaine d'années, des dizaines facilement de viols ou agressions sexuelles. Toujours des femmes, toujours au petit matin, toujours le même mode opératoire. Ce sont des crimes qui sont restés très longtemps irrésolus. Alice Géraud refait l'enquête au peigne fin. Elle se situe du côté des nombreuses victimes. Et en racontant, elle met en lumière les failles, les dysfonctionnements et pour tout dire le désintérêt. L'indifférence des institutions face aux agressions sexuelles, c'est à la fois fascinant et désespérant. Sambre, radioscopie d'un fait divers, signé Alice Géraud chez Jean-Claude Lattès.
Étienne Dao.
Je pense à un livre que j'ai lu qui s'appelle Fil d'or.
Ouais.
Il est écrit par Suzy Solidor, qui est une des muses de Man Ray. Elle est bretonne, malouine aussi, chanteuse. Et elle a écrit 2 bouquins dont personne ne connaissait l'existence, dont un de ses livres s'appelle Fil d'or, donc. Et il se passe entre l'Orient et les bars de Saint-Malo. Et c'est une histoire un peu fantastique. Et elle m'a beaucoup inspiré une chanson dans l'album qui s'appelle Les derniers jours de pluie. Et ce livre est magique, quoi, vraiment. C'est comme un espèce de cadeau, voilà, une rencontre avec un bouquin qui fait bouger votre sensibilité, quoi, qui vous amène quelque chose, qui vous fait changer.
Gabriel Filtoshiba.
Oui, ça s'appelle 1508, La traversée du vide. Le dernier essai d'un de nos grands essayistes québécois, Étienne Beaulieu. Ça raconte l'histoire d'un pêcheur qui serait venu en 1508 le long de nos côtes. Et j'ai trouvé ça magnifique comme envolée lyrique parce que chez nous, on nous apprend un grand mensonge selon lequel ce serait Jacques Cartier en 1534 qui aurait, entre guillemets, découvert l'Amérique, alors qu'il y avait des peuples premiers qui vivaient là depuis des millénaires. Alors ce livre, cet essai, haut en couleur, nous propose une autre vision de ce premier contact avec la Terre d'Amérique. C'est magnifique.
Et puisqu'amour et désir de la rencontre font vibrer les nouvelles chansons d'Étienne Dao, je vous recommande en guise de prolongement ou d'accompagnement La beauté étincelante du dernier roman de Pierre Michon. C'est hautement brûlant, c'est d'une densité et d'une intensité folle. Ça s'appelle Les deux bonnes et c'est chez Verdier. À lire aussi les livres de Gabriel Filtoshiba, dont le dernier qui a pour titre Bivouac, et écouter Tirer la nuit sur les étoiles, le nouvel album d'Étienne Dao. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
À bientôt, merci.
Bonne journée. Et merci Pascal Clark.
Merci Pascal Claude.